Europe 1.
L'adolescence est une étape charnière de la vie. Pour beaucoup, elle est synonyme de liberté. C'est le temps des premières fois, mais aussi celui des conflits et des questionnements. C'est une période de fragilité où les limites peuvent parfois être franchies de façon extrême, avec le risque de mettre sa vie future en péril. Comment se sont-ils relevés de leur erreur de jeunesse? Et comment leurs choix d'adolescents ont changé à jamais le cours de leur vie? Et quelles sont les conséquences sur leur quotidien et sur leur entourage? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Delphine. Sa vie a basculé un jour où, sur une route, elle circulait beaucoup trop vite avec des amis. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors soyez les bienvenus.
Bonjour Olivier.
Delphine.
Vous allez bien?
Ça va et vous?
Ça va très bien, merci.
Merci de me recevoir ici, dans cette belle région. Alors pendant ces quelques jours que nous allons passer ensemble, on va parler d'une erreur de jeunesse. D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme, erreur de jeunesse?
Tout à fait, oui.
Le 17 avril 1999, vous êtes monté dans une voiture avec deux de vos amis.
Un petit copain et un ami, oui.
Et là, vous avez décidé de faire la course.
La course, je ne sais pas si c'est vraiment une course. Je sais qu'on a été à une vitesse excessive.
La vitesse a été estimée à 180.
Il y a eu une expertise après de la gendarmerie, ça a été estimé à 180.
180. La voiture s'est enroulée autour du pylône. Ouais. Vous avez été expulsé, éjecté de la voiture à
15 mètres.
Et vos deux amis sont morts sur le coup.
Oui.
Vous vous sentez comme une miraculée.
Je suis une miraculée.
Vous êtes une miraculée. C'est difficile d'être une miraculée.
Oui. Pourquoi moi je suis sortie vivante de cet accident et pas eux? Je sais pas. C'est la destinée.
18 ans se sont passés depuis cet accident.
Oui.
Et on va donc remonter le temps parce qu'il s'en est passé des choses depuis ce soir d'avril 99. On va s'asseoir?
Bien sûr, allez-y. Vous voulez boire un café, Olivier?
Avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous marchez avec ce qu'on appelle une canne tripode. Vous êtes considéré comme handicapé à 80%. Avant tout ça, quel type de jeune fille étiez-vous?
Très sportive.
Très sportive.
Quand j'étais au collège, dans le sport études de basket, et je préparais un marathon avec mon père.
Vous étiez dans un groupe de jeunes où quelques-uns avaient déjà leur voiture. Ça vous était déjà arrivé avant ce soir d'avril 99 de monter en voiture et de pousser les voitures avec vos copains?
Oui, comme tous les jeunes de notre âge, on aime l'adrénaline, on aime tout ce qui est interdit, on aime. Mais moi, j'ai toujours aimé les sports, les choses à sensation.
Ouais.
J'aimais les soins élastiques, j'aimais les manèges à haute sensation.
D'accord.
J'aime toujours d'ailleurs les choses qui font peur en fait. J'avais ça dans le sang. Quand on est jeune, on profite de notre jeunesse, on vit les choses à fond. On pense pas au pire, non. Un accident arrive toujours qu'aux autres.
En tout cas, ce soir-là, donc, vous discutez jusqu'à 2h du matin. Vous prenez la voiture, vous rentrez à la maison ce soir-là.
On ramenait Guillaume au zono chez ses parents. Bernard et moi, on allait dormir chez ses parents. Ma maman m'a appelé, j'ai pas répondu parce que je savais qu'elle allait me dire de rentrer, où j'étais, je voulais pas qu'elle me prenne la tête, quoi. Donc, j'ai pas respecté mes parents comme beaucoup de fois, et le jour-là, si je les avais écoutés, je serais pas là aujourd'hui.
En même temps que vous, part
un autre ami de l'époque qui part devant en voiture. Et puis, sans doute qu'on a voulu le rattraper, quoi. Moi, c'est ce que je me souviens, mais après, je ne peux pas l'affirmer comme une chose réelle, quoi. Je ne peux pas. Et puis, je ne saurais jamais si c'est ça ou pas. Et la vitesse excessive qu'ils ont prise, je ne leur ai rien dit parce que c'était une chose qu'on aimait tous les trois.
Sur quel type de route vous avez cet accident?
C'est une sortie de quatre voies, un endroit où c'est un petit virage. Dans le virage, il faut être à 90 et on était à 180.
Votre course, elle s'est finie
dans le pylône.
Nous sommes sur les lieux de cet accident où vous revenez régulièrement.
J'ai besoin. C'est là que tout est arrêté et j'ai besoin de revenir. Ça m'apporte peut-être de l'énergie, je sais pas.
Du réconfort.
Du réconfort, ouais.
Ouais. Vous vous sentez...
Je me sens bien ici.
Vous vous sentez bien.
Je me sens bien à côté du poteau.
À côté du poteau. Mm. Vous venez chercher des réponses ici, encore, aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un...
J'en aurai jamais, Olivier. J'aurai jamais de réponse. Jamais j'aurai de réponse.
Les souvenirs de l'accident restent flous pour Delphine. Passagère à l'arrière de la voiture, elle n'a sans doute survécu que parce qu'elle a été éjectée lors du choc. Lorsque les secours la retrouvent, elle est dans le coma. À l'hôpital, on constate une importante hémorragie cérébrale et son pronostic vital est engagé. Cette nuit-là, Monique et Michel reçoivent à leur domicile la visite que tout parent d'adolescent redoute.
Vers 1h30 du matin, ça tambourinait à la porte chez moi. En fait, c'était les gendarmes. Et puis, ils m'ont annoncé très très vite que ma fille a eu un accident sur la Nationale 12. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu l'arrière de l'ambulance du SAMU qui partait, donc je n'ai pas vu Delphine sur le moment. Elle était dans l'ambulance, il venait juste de la fermer. Par contre, j'ai vu la voiture. En fait, c'est pas la voiture que j'ai vue, c'est trois bouts de voiture. J'ai vu l'avant de la voiture dans le pylône électrique, Le moteur un peu plus loin dans le fossé de route de la Nationale, et l'arrière de la voiture un peu plus loin, c'est-à-dire la voiture était en trois morceaux. Donc je connaissais quelques pompiers qui étaient là, donc je leur ai demandé ce qu'il en était. Ils m'ont dit que Delphine était très grièvement blessée, elle était dans un état critique. Et j'ai demandé comment étaient ses deux amis. Là, ils m'ont répondu qu'ils étaient morts tous les deux, Guillaume et Bernard. Et puis après, je suis parti à l'hôpital. Mmh. Voilà. Donc après, on appelle les proches, on appelle la famille, on appelle les parents des deux autres.
Les deux autres, ouais.
Donc là, c'est assez terrible, en fait.
Ouais.
Parce que là, on a en face de soi des gens désemparés, complètement bouleversés, qui n'ont plus de raisonnement et d'attitude logique, quoi, qui ne comprennent même pas qu'on leur annonce que quelqu'un puisse être décédé ou quelqu'un puisse être en état très très grave, ce qui était le cas de Delphine, puisque... Elle était entre la vie et la mort, d'ailleurs, elle y est restée une semaine. Donc ça, ces moments-là, c'est...
C'est inoubliable.
Ça ne s'oublie pas. Je suis allé à l'inhumation de Bernard à la Fresnay-sur-Chédoué. C'était terrible comme inhumation.
Je ne sais pas, aller pour être seule.
Et puis moi, j'étais là avec Delphine, qui était en réa, certes, mais vivante. Mm-hmm. Alors que les parents, eux, c'était...
Ouais.
Deux cercueils dans l'église, quoi. Donc ça, c'est... On se met aussi à leur place, quoi. On est à la nôtre, et puis on les voit, eux, avec deux enfants morts, alors que notre fille est vivante. Mmh.
Malgré les circonstances de l'accident, Monique et Michel décident de ne pas porter plainte contre le conducteur du véhicule. Pour eux, la cause principale de ce drame est l'inconscience de la jeunesse.
On a fait jouer les assurances conducteurs, responsabilité civile et autres, mais en aucun cas de plainte pénale.
Ouais, d'accord. Alors,
moi, je pense que quand on perd deux enfants, on ne rentre pas dans les problèmes matériels, parce que le chagrin, la perte est tellement forte par rapport à des problèmes matériels. Donc moi, je n'ai pas donné suite à toutes les petites demandes que j'aurais pu avoir à ce moment-là, que j'ai eues à ce moment-là, de poursuites et de choses comme ça. Mmh. J'ai dit, les enfants sont morts, ça ne va pas les ramener. Et de toute manière, on a besoin de l'énergie qu'on avait, eux, pour surmonter, nous, pour l'accompagner.
Ça montre aussi votre état d'esprit par rapport à tout ça. C'est-à-dire que vous avez respecté l'amitié que ses enfants avaient et oui. ce qui les a unis ce soir-là dans, oui. dans le drame.
Oui. Et puis, moi, je peux aussi comprendre que des jeunes, de temps en temps, et sur une voiture un peu puissante, puissent avoir envie d'appuyer sur l'accélérateur. Mais les conséquences sont tellement graves et ça va tellement vite que la moindre petite faute à grande vitesse, on ne maîtrise plus rien.
Elle est fatale.
Elle est fatale, mmh. la preuve.
Est-ce que vous, vous avez supporté une sorte de culpabilité
On sent forcément fautif quelque part. On sent qu'on n'a pas forcément fait tout ce qu'on aurait dû faire en tant que parent.
Vous avez un souvenir, hein, vous, Michel,
oui.
Qui vous a hanté un bon bout de temps.
Oui, encore quelques fois maintenant, oui. Mm-hmm. oui. À savoir que le soir en question, elle voulait sortir et elle m'a demandé la voiture parce qu'elle avait son permis depuis peu de temps. Mais Delphine conduisait vite. Et moi, je venais changer de voiture, donc moi, je n'avais pas confiance. Je me suis dit, Delphine, elle va trop vite, et celle-là, cette voiture-là, ça ne le fera pas. Surtout, celle-là des copains, et qu'ils ont envie d'aller un petit peu vite, ça peut mal se terminer. J'y ai pensé, puis je me suis dit, ben écoute, elle me dit, comment je fais alors? Ben, je dis, c'est simple, tu demandes à Bernard, son ami, s'il ne peut pas t'emmener. Bon, elle insiste un peu, et puis j'ai dit non, je ne céderai pas, tu prends pas la voiture. Et puis en fait, ils sont partis avec la voiture de Bernard. Je me suis dit, après tout, j'aurais confié ma voiture et elle aurait fait en sorte que la voiture revienne au bon état. Alors que là, en fait, il s'est passé quelque chose. Donc je portais ça longtemps, un peu seul. Parce que la responsabilité, c'était la mienne, et uniquement la mienne.
Vous avez très vite pris conscience qu'il allait y avoir des séquelles irréversibles. On vous a préservé de ce côté-là ou on vous a tout de suite dit que...
On nous a tout de suite dit qu'il y avait très peu d'espoir que Delphine remarche un jour.
Après une semaine de coma et un mois passé en soins intensifs, Delphine est transférée dans un centre de rééducation. Émue par son jeune âge, la neuropsychologue Florence Piel et son équipe mobilisent alors toute leur énergie pour sauver la jeune fille.
Elle est jeune, elle a eu un terrible accident. Elle nous arrive vraiment pas en bon état.
Ouais.
On se dit qu'elle était en train de construire sa vie.
Ouais.
Ça nous met quand même aussi une responsabilité au niveau encore plus sur les épaules. C'est-à-dire qu'on se bat pour tous nos patients. Mais Delphine, elle était juste au début. Elle n'avait pas encore pris son envol. Et voilà. Donc non, on a envie d'y arriver. Donc on va la voir, on a envie qu'elle aille mieux, on se bat avec elle. Quand elle est éveillée, voilà, on se présente, on dit comment on s'appelle, qui on est, où elle est aussi, parce qu'elle ouvre les yeux, elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas du tout, donc ça peut être extrêmement déstabilisant. On lui explique qu'elle a eu un accident de la route, donc voilà, qu'elle est en centre de rééducation et qu'on est là pour l'aider, pour la faire progresser, pour qu'elle aille mieux. Mmh. Et puis, moi, en ce qui me concerne, j'essaie de lui donner des repères, la date, etc., l'année, des choses, la ville où elle est, parce que ça non plus, elle ne sait pas. Donc, c'est important de la stimuler à ce niveau-là.
C'est comme une renaissance, alors ? C'est comme un bébé qui...
Voilà. Ça, c'est... J'ai pas ma tête pour réfléchir, donc je suis comme un robot, je fais les choses qu'on me demande.
D'accord.
Et je n'ai pas conscience des choses.
Mmh. Et finalement, tant mieux, peut-être, non ?
Peut-être, oui. Mais tout ça va se faire progressivement. La conscience, la mémoire de Delphine qui va se remettre à travailler petit à petit, voilà. Et aussi le fait, le deuil des personnes qui étaient avec toi aussi dans l'accident. Enfin, il y a le moral, tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas.
Ça, vous ne lui annoncez pas tout de suite
Nous, on lui dit, tu as eu un accident. Mais tout de suite, elle ne se dit pas... Oh, il y avait Bernard avec moi, il y avait mon copain.
Elle ne se rappelle pas.
Non, elle se rappelle pas, donc elle pose pas la question. Puis à fin force qu'on lui dise que elle en discute avec sa famille. Justement, c'est à ce moment-là, quand elle va mieux, qu'arrivent les questions sur qu'est-ce qui leur est arrivé, où est-ce qu'ils sont, est-ce que je pourrais les voir, ils viennent pas me voir. Donc oui, il y a eu un moment un petit peu compliqué, mais l'équipe était là pour la soutenir. Elle pouvait en parler. Elle choisissait son interlocuteur, mais elle savait qu'elle pouvait en parler.
Mmh.
Et elle s'est battue, elle est repartie.
Quand j'ai marché pour la première fois dans la piscine, je me suis sentie volée. C'était une renaissance. J'ai dit, ça y est, je vais y arriver. Quoi. Je marchais. C'était un bonheur.
Ouais.
Voilà, on se dit, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça.
Tout ça pour ça.
Oui, tout ça pour ça.
Delphine n'arrête pas de me dire depuis qu'on est ensemble.
Oui.
Voilà, moi, j'étais promis à
Oui, elle a été fauchée.
Une autre vie, et voilà, elle ne cesse de me dire, ça n'est pas la vie que j'ai choisie, j'aurais voulu une autre vie.
C'est certain, c'est certain. C'était une fraction, une erreur, voilà, qui a des conséquences maintenant, qui a bouleversé sa vie, qui a des conséquences au quotidien et qui aura des conséquences jusqu'à la fin.
Malgré de lourdes séquelles, autant physiques que psychologiques, Delphine est aujourd'hui maman d'une petite fille de 6 ans.
Attends-moi,
séparée du père de l'enfant, elle assume son rôle de mère, un rôle dont personne ne la pensait capable lorsqu'il y a 19 ans, elle démarrait sa vie d'adulte en repartant à zéro.
Ici, vous avez dû tout réapprendre.
Parler, manger, m'habiller, me laver, compter. L'alphabet, je ne savais plus rien faire. J'ai tout réappris comme un nouveau-né.
Vous vous dites quoi à ce moment-là ? Vous dites que vous n'aurez jamais la même vie ou vous y croyez ? Vous croyez que vous allez pouvoir vous en sortir ?
Ah non, ma vie, je sais qu'elle ne sera plus la même. Et je m'en construis une différente. Et la meilleure qui soit. Mais oui, c'est avec des grosses difficultés. Je peux pas rester comme ça. Pas moi. C'est pas possible. Pas la Delphine que j'étais. Ce qui me fait le plus mal, Olivier, c'est que ne savoir que j'allais plus. J'avais pris conscience que je ferais plus de basket. Oui, ça c'est. Mon sport de courir, c'est dur.
Le fait de reprendre des cours, de reprendre vos études d'ici, c'était déjà vous sentir à l'extérieur ?
Ah oui, je voulais absolument pouvoir faire quelque chose de ma vie. Donc il fallait que je me donne les moyens pour pouvoir intégrer un lycée, pouvoir être mieux physiquement, pour être capable de vivre dans mon appartement, de faire ma vie normalement, quoi. C'est un plaisir de vous voir.
Merci.
Ok, tu fais un bisou à tout le monde.
Ma petite fille va bien.
Ouais, nickel. Ouais. Super. Tout va bien.
Plein de bonnes choses.
Allez. Ouais, ouais. Que du bonheur.
Bon, allez, à bientôt.
Hein. Bisous les filles.
Après 2 années de rééducation intensive, Delphine est revenue vivre chez ses parents et a repris difficilement ses études. Désormais hémiplégique, elle prend conscience qu'elle ne sera plus jamais la même et qu'il va lui falloir accepter ce qu'elle est devenue.
Pour apprendre mes leçons, pour réfléchir, pour établir un problème de comptabilité, parce que j'étais retournée en BEP compta, ça me demandait une triple d'efforts. Mais sauf qu'il me fallait un diplôme pour espérer faire quelque chose dans la vie future, quoi.
Quel regard les autres étudiants portent sur vous à cette époque ?
Ils ne m'acceptent pas.
Ils ne vous acceptent pas ?
Non. Juste en fauteuil, ils n'acceptent pas. J'avais toujours des moqueries. Puis je passe au-dessus, mais sauf que quand ils ne m'ont pas accepté pour la photo de classe, ça a été dur pour moi.
On vous regardait comment, en fait ?
J'étais comme une bête curieuse, quoi. Non. On me dévisageait, quoi. C'est beaucoup, attention, beaucoup porté de l'admiration. Beaucoup, c'était. Oui, c'était du ouais, courage et tout, mais beaucoup, c'était de la compassion. Parce que la compassion, c'est, on le sent quand c'est de la pitié, c'est pas bien.
Vous l'avez aussi vécu dans le monde du travail, hein, cette discrimination, puisque lorsque vous avez voulu trouver du travail, finalement, vous n'en avez jamais trouvé.
Ah si, j'ai travaillé 9 mois.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail ?
Secrétaire d'accueil. Et puis quand j'étais au téléphone, beaucoup de clients me disaient que j'étais bourrée, parce que je parlais mal. Je prenais des insultes au téléphone, et puis un jour j'en ai eu marre, je suis allée voir ma patronne, et je lui ai dit je travaille pas pour me faire insulter. J'ai un handicap, certes, j'ai beaucoup de difficultés, je travaille pas pour me faire insulter, donc... j'ai dit que je voulais pas rester, mais de toute façon, ils voulaient pas me garder parce que l'handicap était trop lourd pour eux. Mais je suis tombée enceinte, donc ça tombe bien.
Le 20 septembre 2011, Lilou est née alors que alors qu'on vous avait dit que vous ne pourriez pas avoir d'enfant.
C'est pas que je ne pouvais pas en avoir, c'est que ça allait être très difficile pour moi de tenir ma grossesse, du fait de mon handicap, d'accoucher, et les suites de vivre avec un enfant. J'ai tenu 9 mois et 2 jours avec mon gros bidon, sans prendre mon fauteuil. Je me portais très bien, j'ai pas été malade, j'allais très très bien. J'ai accouché naturellement par voie basse, sans juste une péridurale, mais normalement, comme les gens valides. Aujourd'hui, je m'occupe de ma fille toute seule, sans problème. Donc, alléluia.
La naissance de cette petite fille, elle a donné du sens à votre vie.
Oui, mais j'ai quand même un problème. Et je l'ai vu quand elle était toute petite, je ne pouvais pas la porter. Mm-hmm. Vous allez vous imaginer, pas réussir à porter votre enfant.
Chaoul.
Dur, hein.
Ça ne vous a pas aidé à vous accepter un peu plus
Ah si, bien sûr. Mais je suis différente, je suis lente. Vous imaginez, vous, ce que vous faites en 5 minutes, je le fais en un quart d'heure. Intérieurement, je suis bouffée. Je pleure jamais devant les autres. Et je peux vous dire que je pleure souvent seule. Je me cache parce que personne n'est responsable de ce qui m'arrive. Donc personne n'a à me consoler parce que sinon je suis inconsolable. Donc j'emmène pas les gens avec mes problèmes. Je les garde pour moi. Mais une chose est sûre, c'est que si j'avais eu un témoignage vivant sur une erreur de jeunesse ou sur des accidents de la route, ça m'aurait peut-être fait réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats pour ça.
Mmh. Vous voulez dire que vous seriez peut-être pas monté dans cette voiture ce soir-là?
J'aurais sans doute dit quelque chose et je pense que Bernard Aguirre n'aurait pas été si vite.
Aujourd'hui, Delphine fait construire une maison adaptée à son handicap. Car selon les médecins, d'ici quelques années, elle devra probablement se déplacer en fauteuil roulant. Pour quelques minutes de sensations fortes, Delphine a payé très très cher. Quelques minutes qui l'ont obligée à reconsidérer toute sa vie et à renoncer à ses rêves d'adolescente.
Aujourd'hui, les conséquences de cet accident sont irréversibles.
Je pense que j'ai progressé au maximum. Mm-hmm. Non, ça ne reviendra pas. Je ne recourrai jamais. Je ne suis plus la Delphine d'avant. Non, elle est restée au poteau, là, ma vie. Je resterai handicapée toute ma vie.
Comment est-ce que vous pensez à la Delphine d'avant?
Au niveau du sport. C'est que je ne peux plus faire de sport aujourd'hui. Et je ne peux plus faire mon métier que je voulais faire. Je vais être dans la police et aujourd'hui, je ne peux plus.
Quand aujourd'hui, vous regardez Lilou, qui a 6 ans, vous craignez déjà pour elle plus
non,
tard
parce
où
que
elle sera
je serai toujours là pour lui faire rappeler que. Ouais, je vais pas l'empêcher de vivre, mais je serai là pour lui faire rappeler le danger. Mm-hmm. Et je pense qu'elle a l'exemple même avec sa maman, je pense pas qu'elle le fera. Quand on a un accident comme celui que j'ai, que d'autres ont malheureusement, bah on galère tout le temps. On se bat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je veux faire comprendre aux gens que faut pas jouer avec la vie. Bien sûr, on profite de notre vie, il faut être vigilant. J'ai la chance d'être en vie, moi, aujourd'hui. Je profite encore, j'ai une petite fille, j'ai construit ma maison. J'ai la chance de poursuivre ma vie. Donc, que les gens prennent soin d'eux. Que la vie, elle est sacrée. La vie, elle est belle. Elle mérite d'être vécue.
Très bien. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis, vous embrasserez la petite Lilou pour moi.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour la maison, là. C'est fini bientôt. Et puis, portez-vous bien.
D'accord, merci beaucoup. C'était un plaisir.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, Olivier.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Daviau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.